Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
C'est un mardi 8 novembre, figure-toi qu'on a perdu toute trace d'Alfred Katz. Et c'est ce jour anniversaire que nous recouvrons notre liberté. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas ?
Qui est Alfred Katz ? À peine quelques minutes après le décollage, nous nous sommes retrouvés épouillés, propres, rasés de frais, bien vêtus. Ils avaient même prévu un coiffeur. C'est dans son miroir que j'ai vu pour la première fois les touffes blanches dans ma barbe.
Comment vous sentez-vous, Victor ? Ça va ?
Ça ira.
C'est surtout moi qui m'occuperai de vous ces prochains temps. Dites-moi si quelque chose vous ferait plaisir, là, maintenant. On a tout ce qu'il faut dans l'avion.
Des cigarettes et un verre de raid.
Gauloise et bourbon ? Ok. Vous ne préférez pas profiter de la désintoxication qui vous a été offerte ? C'est sûr ?
Lui, c'est Laurent, un flic tout bip du Val-de-Grâce qui compte bien me suivre pendant toute ma réhabilitation, comme ils disent. La gauloise me donne mal au cœur. Paris n'est plus qu'à une heure de vol. La première gorgée de bourbon me tourne la tête. Je tiens bon.
Préparez-vous à affronter les journalistes et la télévision. Faites donc comme Alex. Reposez-vous un peu, après ce sera la cohue.
Nous cheminons entourés de fantômes au front troué de Jean-François Villard. Adaptation radiophonique, Maya Bokeh. Premier épisode.
S'il vous plaît. Monsieur Blainville, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, quelles sont vos premières impressions sur le sol français ?
Monsieur Blainville, après 1021 jours de détention, comment pensez-vous vous refaire ?
Avez-vous vu le visage de vos tortionnaires ?
Docteur Blainville, vous débarquez dans un nouveau monde. Serez-vous prêt à affronter tous ces changements ?
Monsieur Blainville,
s'il vous plaît,
laissez-le, ça suffit. Victor, donnez-moi votre bras. Voilà, c'est bien. Détendez-vous. Le Val-de-Grâce, c'est rassurant, n'est-ce pas ? Voilà. Ah oui. J'oubliais. Votre appartement. Je suis sincèrement désolé. Votre appartement a été entièrement cambriolé il y a à peine 2 semaines. C'est une fâcheuse coïncidence quand même.
Toutes mes affaires ?
Oui. Toutes vos affaires. Plus rien. Vide, entièrement vide. Il ne reste plus rien. Plus de livres, plus d'images, plus d'objets fétiches, plus d'archives, plus de collections.
Faut que je sorte.
Victor, c'est un 8 novembre, figure-toi qu'on a perdu toute trace d'Alfred Katz. Et c'est ce jour anniversaire que nous recouvrons notre liberté. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas ?
Mais dis-moi, Alex, qui est Alfred Katz au juste ?
C'est sans importance. Du moins pour le moment.
8 novembre 1917, Lénine devient président du Conseil des commissaires du peuple. 8 novembre 1923, putsch de Munich. 8 novembre 1932, Franklin Roosevelt est élu président des États-Unis. 8 novembre 1989, nous sommes libérés.
Attention, Victor, derrière toi, là !
Je ne vous ai pas dit. Il reste le téléphone, heureusement. Ils n'ont pas volé le téléphone. Comme ça, nous pourrons rester en contact. De jour comme de nuit.
Laissez-moi ! Laissez-moi !
Allô, Victor ?
Ouais.
C'est Laurent. Je vous ai pas dit.
Non ?
Si quelque chose ne va pas, je viens tout de suite. N'hésitez pas, je peux être chez vous en un quart d'heure. Vous n'avez qu'à le dire. Victor ? Allô ? Allô ? Allô ? Victor ?
Bonjour.
Bonjour.
Salveig.
Sur le palier, une femme se tient droite, patiente. Ah, bah, c'est une journaliste.
Entrez.
Elle décline son nom sans que j'y prête attention et attend que je la fasse entrer. Vu l'état des lieux, suite au cambriolage, la visiteuse n'est qu'à se poser où elle peut. Elle a une allure composée de vieux jeans et de soie chic. Son blouson est trempé. Elle s'en débarrasse et s'installe sur le parquet. Elle est journaliste au soir. Elle vient pour l'interview.
Oui, l'interview.
Pardon ?
J'ai laissé un message sur votre répondeur. Sans contre-ordre de votre part, le rendez-vous était confirmé. Et puis Marc a dû vous prévenir.
Marc ? J'ai aucune nouvelle de votre patron depuis ma libération.
Pas de nouvelles ?
Ah.
Ce n'était pas tout à fait exact.
Je ne suis pas comptable des négligences de ma direction.
Marc avait cherché à me joindre au Val-de-Grâce, téléphonant d'Allemagne. Plus précisément de Berlin, à ce que j'avais cru comprendre. Il couvrait là-bas une urgence décisive, comme d'habitude. Mon retour le rendait bien évidemment fou de joie, ou tellement soulagé. Solveig cherche des yeux un cendrier. Elle fume des Craven. D'où son accent ? De quel pays ?
Marc est votre vieux copain, je crois.
Il dirige un journal.
De quoi avoir pour lui de bonnes raisons d'être à Berlin en ce moment ? Vous ne croyez pas ?
Pourquoi ?
Eh bien, ce jeudi 9 novembre a toutes les chances de rester un jour historique.
C'est déjà le cas. Je vois mal notre cher Marc se rendre à Berlin pour commémorer le 51e anniversaire de la Nuit de Cristal.
Vous dites ?
La Nuit de Cristal. Un mercredi 9 novembre en 1938. La date d'un très grand pogrom pour sanctionner l'assassinat par un jeune juif parisien d'un fonctionnaire nazi.
Il y a eu des morts, des blessés, des destructions de magasins, de synagogues, des milliers de déportés.
Je sais tout cela, tout le monde le sait. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous vous souvenez aussi précisément de la date et du jour, un mercredi. Je vous croyais photographe. Vous êtes historien ?
Historien, pas comme vous devez l'entendre. J'ai la passion des calendriers, c'est comme un jeu. Le 9 novembre, c'est aussi l'anniversaire de la naissance en 1915 d'Eddie Lamar, actrice inoubliablement nue dans Extase.
Je vois, vous n'êtes au courant de rien. Vous êtes encore complètement coupé du monde.
J'ai tort, je néglige quelque chose d'important.
Cette nuit, le mur de Berlin a été ouvert.
Quoi ?
C'est encore un peu symbolique, mais il y a une brèche par laquelle des centaines de gens sont passés de l'Est à l'Ouest, librement.
Une émeute ?
Pas même un coup de force, une hémorragie.
Donc le mur est ouvert. Et Marc est à Berlin, rien à redire.
Tenez, il m'a donné pour consigne de vous remettre ceci, de ne pas attendre qu'il revienne pour l'entamer.
Oh, du Jack, le bourbon que je préfère. Ça, il n'a pas oublié. C'est bon, ça. Tenez, buvez.
Alors, aux accélérations de l'histoire.
Solveig n'est plus si jeune. Elle a dû avoir très tôt des cheveux gris. Je ne parviens pas à la cadrer. Que veut-elle ?
J'imagine que c'est une corvée. Mais le soir est votre journal et l'exclusivité de vos premières déclarations nous revient.
Je ne suis pas journaliste.
Je tente de faire comme si moi je l'étais. On devrait pouvoir s'arranger.
Je ne suis pas journaliste, je ne l'ai jamais été. Simple photographe. En studio de préférence. Deux rues, tout au plus. Et exclusivement dans Paris. Je déteste quitter Paris. Je déteste les voyages. Depuis plus de 20 ans, l'idée de préparer ma valise me rend littéralement malade.
Ce n'est pourtant pas à Paris que vous vous êtes fait enlever.
Et alors ? Marc a bien manœuvré, c'est tout ? C'est même pas pour une question de fric que j'ai accepté sa proposition de reportage. Rien qu'un défi. Une manière de me provoquer, une vague plaisanterie sur mon âge, sur mon incapacité à sortir de mes routines, de mes collections obsessionnelles, des clichés de pratiquement toutes les rues, de tous les monuments de Paris. Paris, rien que Paris. C'est tellement plus commode, m'a-t-il dit. Ça évite les rencontres, les accidents. Tu t'aventures plus, Victor, tu sais plus. Et Marc a eu la malignité de me faire ce numéro un jour de doute. Un reportage court, même pas une semaine, histoire de montrer à quoi ça ressemble une ville en pleine guerre civile.
Vous avez accepté. Pour voir quoi ?
Rien. J'ai pas eu le temps de prendre une seule photo. À l'aéroport, les taxis étaient rares. J'ai fini par en trouver un, à peu près en même temps qu'un autre type. On s'est facilement mis d'accord pour partager la course.
Cet autre type, c'était Alexandre Katz.
Alex, oui. Nous roulions depuis 3 minutes quand une voiture nous a fait une queue de poisson et nous a barré le passage. Freinage brutal, des hommes jaillissent, cagoulent, treillis, ils crient. C'était pas des pros. Ils étaient complètement affolés, le canon de la Kalachnikov pointé sur le front. Ils nous extirpent du taxi, ils nous lient les mains dans le dos. Aucune peur, je peux le jurer. Simplement la conviction que c'était joué. Que j'étais l'exception, tombé pile au mauvais endroit, à la mauvaise heure.
Vous avez tout de suite vu les choses ainsi ?
Cette conversation m'emmerde. Tenez, buvez vous aussi. Ils nous mettent tout de suite une espèce de sac en plastique sur la tête. Ils nous bousculent vers une autre voiture. J'ai cru que j'allais suffoquer. La voiture démarre sec. Le parcours jusqu'à la prison est très rapide. On nous jette dans une sorte de cave obscure, menottes au poignet. On se retrouve là, accroupis sur une terre battue visqueuse. On allait rester là des mois, à peu près dans la même position. Notre merde en plus.
Attendez, ce n'est pas ce genre d'interview que Marc veut. Il faudrait reprendre.
Qui a dit que nous faisions une interview ?
D'accord, on fait comme vous voulez, on arrête. Dites-moi où j'ai commis l'erreur.
Après plus de 3 ans, ça sert à rien de me poser des questions sur le pourquoi il commande la prise d'otage. La seule question civilisée que vous pouvez me poser, Solveig, c'est de retour au port, avec qui baisez-vous ?
Avec qui ?
J'envisage de tenter les putes.
Alors je m'en voudrais de vous retarder. J'aime autant cette réaction. Je vous trouvais un peu trop complaisante, trop prêt à vous raconter. Petite star, vous voyez le genre ? Tant pis pour moi.
Une prochaine fois, peut-être.
Vous répondrez alors à la seconde question qu'il faut vous poser.
Laquelle ?
Quitte à vous éloigner de votre tanière, pourquoi avez-vous choisi cet accident-là ? Un rapt. Nasreddin.
Solveig avait disparu.
Vous dérange ?
J'ai l'habitude.
À sa place, Laurent, le flic Toubib.
C'est bien une journaliste que je viens de croiser. Une fille du soir. Exact.
Ah. Tiens, je vais me servir un petit bourbon.
Faites ce que vous voulez, Victor, mais à mon avis, c'est une erreur de fréquenter si vite les médias. Je sais d'expérience qu'on est fragile à la sortie du trou. Vous avez été basculé pendant 3 ans dans une sorte d'enfer, à la merci de fous furieux. Et un beau jour, c'est fini. La liberté. Mais c'est pas si simple, le retour à la vraie vie.
Soyez tranquille, Toubib. J'ai toujours pensé que j'étais dans ce que vous appelez la vraie vie. Complètement.
Intéressant. J'en tiendrai compte. Là-bas, ce sont des dingues, des fanatiques. Un conflit devenu incompréhensible. On y prend en otage n'importe qui, le premier venu. Pourtant, ils capturent leurs otages à l'aveuglette, c'est entendu. Pourtant, on est forcé de se demander à chaque fois pourquoi celui-ci plutôt que tel autre. Pourquoi lui, à ce moment-là ? Pourquoi Alex ? Pourquoi vous ?
Conclusion ?
Conclusion ? Vous vous en doutez bien. Je suis en droit de me poser des questions.
Que savez-vous sur moi, Laurent ?
Tout. Dès l'annonce de votre enlèvement, les services se sont mis en branle et ont enquêté. Votre vie, vos activités, vos obsessions, vos relations professionnelles, amoureuses, amicales, familiales. Nous avons cherché à percer tous vos secrets.
Ce qui donne ?
Un gros dossier. Mais au final, rien qui puisse expliquer qu'un type qui déteste quitter Paris ait accepté ce reportage. Rien qui puisse expliquer qu'il vous ait pris, vous, et pas un autre. C'est du moins notre conclusion. En l'état.
En l'état ?
L'irruption de tout élément nouveau nous passionnera.
Je vois. J'imagine que ma libération est un élément nouveau.
Assez considérable, en effet. Car il y a encore beaucoup d'otages détenus. Alors pourquoi vous et votre ami, Alex ? Je suis un peu maladroit, mais je fais mon boulot, faut pas m'en vouloir. Et vous avez besoin d'être au calme après une pareille épreuve. Je vous laisse. Bougez pas, je connais le chemin. Ah, oui. Une dernière chose que je voulais savoir.
Dites toujours.
Ça m'embête. Impossible de contacter Alex depuis sa sortie du Val-de-Grâce. Il est totalement injoignable. Étrange. Comme c'est votre ami, je me demandais si vous aviez de ses nouvelles.
Alex n'est pas mon ami. Il faut plus de 1021 jours de cohabitation contrainte pour ça.
Étrange.
Laurence Eclipse. Plusieurs fois, je tente de téléphoner à Alex. En vain. Entre le seuil de mon immeuble et celui de la capitale, il y a exactement 14 pas. J'ai souvent compté. La capitale, mon rade habituel. Derrière le zinc, je vois tout de suite la vieille Une du Soir placardée. Une feuille de journal toute jaunie, avec ma gueule. Une photo pas très bonne, charbonneuse, genre anthropométrie policière. Je me penche pour voir la date. 20 janvier 1987. Une semaine après l'enlèvement. Pas moins.
Et pour monsieur, ce sera...
Un café noir serré et blanc sec.
Très bien, un serré, un blanc sec.
Comme d'habitude, quoi.
Ah, Victor, pas incroyable. Oh, ce que t'as changé. Je peux pas savoir la joie avant-hier quand ils ont annoncé ta libération aux infos. Faut qu'on fête ça. On ouvre une bouteille de champagne.
Non, c'est pas la peine.
Oh, bah, ça me ferait plaisir, je t'assure.
Non, non.
C'est moi qui offre.
Une autre fois, Doris, tu veux bien.
Oh, comme tu veux, Victor. C'est toi le miraculé.
Doris m'évalue du coin de l'œil. J'ai un peu maigri, c'est vrai. Le teint gris, les cheveux courts. Mais à la capitale, certains matins d'autrefois, on m'a vu avec une plus sale gueule. Le café est toujours aussi dégueulasse. Et le blanc râpe toujours rudement la gorge.
J'en viens toujours pas. Le mur qui tombe. C'est difficile à croire. Après toutes ces années. Et je te remets ça.
À ce moment, très sincèrement, je me persuade que le monde a attendu mon retour pour accélérer furieusement sa course.
Allô Victor, c'est Alex.
Alex?
Oui, je dois te voir, c'est urgent. Demain à 15h, c'est possible?
Où?
Je vais faire court. On doit être très prudent. Ils nous écoutent en ce moment même, Laurent et ses confrères. C'est leur boulot. Ils nous surveillent. Il faut que je te voie sans eux, sans qu'ils rôdent autour.
Alex, qu'est-ce qui se passe?
Je te dirai demain. Tu te souviens de cette ancienne librairie dont nous avons parlé quelques fois? Oui?
Oui.
Ne la nomme surtout pas. Tu y seras?
Oui.
Tu feras attention à ne pas être suivi.
Entendu.
Et une autre chose, Hector. Il faut que tu y réfléchisses avant de venir.
Quoi?
Est-ce que tu penses que je suis un salaud?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Rien, pas maintenant. Écoute, on parlera demain. Mais réfléchis. Et puis...
Oui?
Je t'embrasse.
Allô, Victor, c'est Marc. Avec le mur qui s'ouvre, je pouvais vraiment pas être là pour ton arrivée. Je suis sincèrement désolé.
Y a pas d'offense, Marc. Je t'ai connu de pire manquement.
Cette prise d'otage, quelle histoire de merde, hein.
Je suis assez d'accord.
Comment ça s'est passé avec Solveig?
Pas trop bien.
J'aurais dû m'en douter. Cette fille est nulle. Elle croit toujours qu'elle en sait plus que les gens qu'elle interviewe. Oublie-la.
Mais Berlin, raconte un peu.
Tu peux pas imaginer ce qui se passe ici. C'est presque impossible à raconter. La nuit dernière, j'ai pensé très fort à toi. Et pas seulement à cause de ton retour. Il y avait le mur ouvert, et puis des deux côtés, une foule énorme. La liesse complète. Les gens riaient, pleuraient, s'embrassaient, buvaient du mousseux, de la bière. Et puis tous ces types avec leurs petits marteaux, leurs petits pics, essayant d'effriter leurs petits bouts de mur.
Pourquoi tu pensais à moi?
Parce que cette nuit, sur le mur, sur la crête, il y avait un lascar, tout seul, totalement indifférent à ce qui se passait en bas. Tu sais ce qu'il faisait? Du vélo. Non mais tu te rends compte? Sur le mur, il se promenait comme un funambule, le nez en l'air. Je te jure, Victor, j'ai douté pendant quelques secondes. L'allure, la dégaine, j'ai cru que c'était toi qui étais là.
Marc, s'il te plaît, n'en fais pas trop.
C'est une question difficile à poser, mais... Est-ce que tu m'en veux? Sans moi, tu serais jamais allé là-bas.
Si je lui en voulais? Oui, bien sûr, cher Marc. Où est le problème? 14h30. Conformément aux indications d'Alex, je fais quelques détours et prends beaucoup de précautions pour dérouter d'éventuels suiveurs. 14h56. J'arrive à l'écluse de la Grange Aubel. Au numéro 96, la librairie du travail, le lieu de notre rendez-vous, n'existe plus depuis des dizaines d'années. Le local des syndicalistes révolutionnaires fut un temps reconverti en resto à couscous, avant de devenir le dépôt d'un marchand de fringues. 14h58, je guette Alex. La circulation est dense sur le quai, malgré l'étroitesse de la chaussée. J'observe tout ça depuis la balustrade de la passerelle qui enjambe le canal et domine le pont tournant. 15h, je vois un gros camion, avec sa charge de ferraille, de longues tiges de métal filetées. Il s'arrête net au feu rouge, trop net, trop brusquement. 15h01, je vois nettement, et il n'y a rien à faire. Quelques-unes de ces tiges glissent sans résistance vers le pare-brise de la voiture derrière. L'une d'entre elles est agrémentée d'un chiffon rouge, un fanion. La vitre éclate. Sur le trottoir, les premiers cris fusent, horrifiés. 15h02, je me précipite, je dégringole les marches. Les badauds sont déjà nombreux, agglutinés autour de la voiture. 15h03, je vois les mains encore sur le volant. L'homme mort est comme cloué par une tige rouillée, percée en plein front. Le sang coule à peine. Un chiffon rouge couvre une partie du visage d'Alex. Mâchoire béante. 15h05, une forte poigne me tire en arrière, je manque de tomber. C'est Laurent, furieux.
Infantile. Vous avez été complètement infantile avec votre petit rendez-vous pseudo-clandestin et en plus à deux pas de chez vous, Victor. Mais qu'est-ce que vous cherchez à cacher, bon sang? Comment pensiez-vous pouvoir m'échapper? Je vous connais par cœur. J'ai exploré tous vos papiers avant le cambriolage. La librairie ne pouvait être que celle du travail. Vous avez pris des dizaines de photos de son emplacement.
Perquisition légale?
Parfaitement. Comme la surveillance de votre immeuble et celle de votre ligne. Vous coûtez assez cher à la République. C'est une affaire de terrorisme. Merde! Bon. La seule question importante, c'est de savoir si c'est un accident.
Ou un assassinat.
Le chauffeur du camion a été longuement interrogé. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ce n'est même pas lui qui a chargé le camion. Ça aurait pu être un froissage de tôle banal, comme il y en a 100 par jour dans Paris. Sauf qu'il y a un mort, et que ce mort a été pendant plus de 1021 jours au cœur d'une crise internationale. Sacrée coïncidence.
Votre opinion?
Aucune, a priori. J'ai juste assez d'ancienneté pour savoir qu'un citoyen apparemment respectable peut avoir une double vie. De taupe, de tueur. C'est d'ailleurs pour cela que je m'intéresse à vous.
J'ai l'apparence respectable.
J'ai les idées larges. À votre avis, qu'est-ce qu'Alex avait de si important à vous dire?
Pas la moindre idée.
Pensez-vous qu'on ait voulu le faire taire?
J'en sais rien.
Bon, si l'on retient, pure hypothèse d'école, l'idée d'un assassinat. Vous étiez le seul à être au courant de ce rendez-vous.
Le seul avec vos flics et vous, en fin de chaîne. Sans compter les éventuelles confidences qu'Alex a pu faire à des proches. Exact.
Pas faux. Bon, y a-t-il un élément, un seul, même minuscule, qui pourrait vous laisser penser qu'il a été assassiné?
Non.
Vous parliez de quoi pendant votre détention?
J'ai déjà répondu à cette question.
Oui, quand Alex était encore vivant.
On avait passé un accord. Les premières semaines, chacun soupçonnait l'autre d'être responsable de ce qui arrivait. L'ambiance était franchement détestable. Il a fallu trouver une solution. Solidarité minimale durant le temps de notre cohabitation forcée. Aucune évocation de nos activités respectives avant janvier 1987. Aucune question. La règle était de s'en tenir à des conversations d'ordre général. Nous parlions de livres, de peintures.
Mais encore?
Sur l'art contemporain, il était intarissable. Je l'imaginais prof ou conférencier.
Un grand universitaire, en effet.
Il en était parfois pédant. Ce qui peut s'expliquer par ses origines assez modestes.
Il vous les a révélées? Un accro à vos accords?
Alex n'était pas un expansif.
Un homme renfermé? Secret?
Chacun a le droit au secret.
À la dissimulation? Au mensonge?
D'élémentaires droits démocratiques.
Quoi d'autre?
Je me répète. J'ai apprécié en Alex un assez bon connaisseur des avant-gardes artistiques des années 20-30.
Il y a beau temps qu'on n'assassine plus les gens pour ça.
Ce qui reste à démontrer. Peu à peu, qu'on le veuille ou non, les habitudes se remettent en place.
Comme d'hab, Victor, café blanc sec.
S'il te plaît.
Au revoir, Doris, bonne journée.
Au revoir.
C'est Berlin ?
Non, c'est Prague. Hier soir.
Prague ? Une manifestation de cette envergure ?
Ouais. Pauvre. Moi, ça me fout le bourdon de voir comme ils s'acharnent sur la jeunesse. Regarde-les. Ils ont des petites bougies et des fleurs dans les mains, et eux, ils ripostent avec des matraques et des canons à eau. Je sais pas où ça va nous mener, tout ça, Victor. Mais si c'est vers la fin du communisme, bah, tu sais, on sera bien contents.
Nous ne parlions jamais de politique avec Alex. Et mon petit jeu quotidien de l'almanach ne m'avait pas permis d'en savoir beaucoup plus sur ses opinions. Quand arrivé le 21 août, par exemple, il acceptait sans broncher de commémorer au choix la mort de Léon Trotsky ou l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Nous avions été enlevés un 20 janvier, ce qui nous permettait de fêter sans sectarisme la condamnation de Louis Capet, la mort de Lénine, la naissance de Fellini et celle de Raymond Roussel, ou le départ de Lenz dans la montagne.
Oui.
Pardonnez moi de vous déranger. Abigail Stern.
Abigail Stern, nous nous connaissons ?
Non, nous ne nous connaissons pas. Mais vous étiez le dernier compagnon d'Alexandre. Et je dois vous remettre quelque chose. Suivez-moi.
Qui est cette femme ? Que me veut-elle ? Abigail ? Est-ce la femme dont Alex m'a parlé quelquefois sans jamais prononcer son nom ?
Monsieur Blainville, je quitte la France ce soir. Et j'ai en ma possession plusieurs effets personnels d'Alexandre que je ne peux pas emporter avec moi. Beaucoup sont sans intérêt, à l'exception de ce carnet que je voudrais vous remettre.
Attendez, vous allez un peu trop vite pour moi. Qu'y a-t-il dans ce carnet ? Pourquoi moi ?
Je prends beaucoup de précautions, c'est vrai. Alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose dans ce carnet. Mais cet objet appartenait à la sphère privée d'Alexandre. Et je n'ai pas envie que la police vienne fouiner partout. Ça ne la regarde pas. Voilà. Prenez-le, s'il vous plaît. C'est un journal intime, celui de Alfred Katz, le père d'Alexandre.
Mais qu'y a-t-il dans ce carnet ?
Oh, pas grand-chose. La vie de ce monsieur, pendant l'année 1938, juste 1938. Le père d'Alexandre est mort très jeune, dans des circonstances mal éclaircies. Avant la naissance de son fils, c'était un homme passionné par le surréalisme et amoureux d'une fille, un vague modèle de Man Ray.
Vous dites qu'Alfred Katz est mort tragiquement ?
Ça, c'était l'idée d'Alexandre, sa théorie du père assassiné.
Assassiné par qui ?
Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, le journal s'arrête.
Quand ?
Le 8 novembre 1938.
Mais Alex avait bien une mère, non ? Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Elle devait bien savoir ce qui était arrivé.
Morte, en déportation. Alexandre ne l'a pratiquement pas connue. Et il n'a jamais trouvé de traces de la disparition de son père. Rien de sérieux à la police, rien dans les journaux de l'époque, rien dans les archives d'aucune administration. Alfred Katz s'est comme évaporé du jour au lendemain. Je dois partir. Merci de prendre soin de ce carnet. C'est important. Pour Alexandre.
Abigail, attendez. Pourquoi moi ?
Monsieur Blainville, vous savez ce que c'est que l'amour fou ?
Avant de rentrer chez moi, je décide de faire un détour par les locaux du soir. Tout autour de moi fait plus chic, plus installé. Le soir avait prospéré. Son directeur avec.
Ah, bon Dieu, je me pardonnerai jamais de t'avoir envoyé dans ce merdier.
Un jour, je voterai la prescription.
Puisqu'en bricolage avant ton retour, et quel coup de chien. Je te sers un verre ?
Bourbon ?
Bien sûr. J'ai une bouteille de vieux Jack que je garde pour toi. Puis j'ai un cadeau pour toi.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un morceau d'histoire, mon camarade. Un fragment du mur de Berlin.
Wow.
Et tu te souviens de l'année où cette saloperie de mur a été construite ?
1961.
Exact.
J'avais 14 ans, toi 15. Tu redoublais ta quatrième. Et tous les profs t'avaient dans le nez à cause de ce canard que tu diffusais dans le bahut.
Hey, j'étais déjà anti-stalinien. Et toi aussi ? Ce mur nous a indignés.
Peut-être. Mais en 65, à la présidentielle, tu t'es aligné sur les positions du PC. Et tu as défendu qu'il était juste de voter Mitterrand, candidat bourgeois.
Débat passionnant, puisque ni toi ni moi n'étions en âge de voter. Tu te prétendais trotskiste.
Tu admirais les audaces du parti italien.
Bon, merde, Victor. Hein ? Tout ça n'a plus aucun sens.
C'est vrai. Maintenant que tu n'es plus du tout le voyou presque ta suette.
Excuse-moi, Marc. C'est prêt.
Ok, on arrive.
Faudra en reparler, Victor. Mais plus tard. Si t'as 5 minutes, je crois qu'il y a une petite fête prévue. Ton honneur.
Une petite fête en mon honneur. Je crois bien que presque toute la rédaction est là. Debout, un peu empruntée. Beaucoup sont pour moi des inconnus. Le soir est un journal à forte rotation d'effectifs.
C'est assez déroutant de me retrouver ici. Merci à tous pour tout.
À ton retour parmi nous, Victor !
À ton retour !
On s'attache à des détails. Il n'y a plus une seule de ces bonnes vieilles machines à écrire dans cette putain de rédaction. Brader les Remington mythiques, les Underwood romanesques.
S'il vous plaît, un instant. Voilà, Victor, il est temps de t'informer d'une décision que nous avons prise. Tu es parti avec un statut de pigiste. Alors, dès l'annonce de ton enlèvement, on t'a embauché comme grand reporter. Alors, tiens, c'est pour toi.
Avec le salaire afférent. Marc m'a aussi bricolé des primes de risque, des indemnités somptueuses, sans oublier le 13e mois. Au total, ça fait une assez jolie somme.
Merci, Marc.
C'est à ce moment que je remarque Solveig, tout au fond de la salle.
À notre nouveau confrère.
C'est un réconfort d'avoir été des vôtres pendant ces mois difficiles. Aujourd'hui, je suis honoré de faire partie de cette rédaction. Il ne me reste plus qu'à porter un toast. Oui. Buvons.
Buvons.
À ma démission.
Non, pas Victor.
Bravo.
Tu préfères pas réfléchir un peu ?
Il sait bien que non. Du coup, c'est moi qui suis assez piteux. Je me sens forcé de m'expliquer. Pas pour Marc, pour eux, là, rassemblés avec leur champagne, leur gobelet et leur petit gâteau.
Je ne suis pas journaliste. Je n'ai jamais voulu l'être. Pigiste à l'occasion, et encore, quand les impôts me font mal. Je suis juste photographe. Petit. Tout petit, sans ambition. Rien d'un agité du scoop. Pas du tout un fébrile de la valise toujours prête. Ce métier est au-dessus de mes forces. De mes compétences. Faut pas m'en vouloir.
Victor ? Julien ?
Assis en tailleur sur un bureau, Solveig est une des seules à lever son verre.
Allez les enfants, on a un bouclage à terminer, la fête est finie, on se remet au boulot.
Tu démissionnes vraiment ?
Oui.
Ouais ? Bon, à ta guise. On se connaît depuis trop longtemps pour que ça fasse contentieux. J'imagine que c'est ta manière de prendre ta revanche. Mais bon, tu restes quand même ici chez toi.
Comme avant ?
Comme avant.
Et je garde le chèque ?
Bon, allez, débarrasse le plancher. On a du boulot ici.
Mon morceau de mur et mon gros chèque sous le bras, je quitte le soir. En partant, je remarque Solveig à son bureau, qui range tranquillement ses affaires dans son cartable en cuir.
Vous mettez les voiles ?
Juste quelques heures.
Un scoop ?
Une traduction.
Et votre accent ?
Tchèque. De Prague, tant qu'à faire. Ça vous convient ?
Le ton est au défi. Solveig se mord les lèvres. Elle tire de son cartable le numéro du soir daté du lundi 20 novembre. Prague, enfin.
Qu'est-ce qui va pas ?
C'est excitant, n'est-ce pas ? Toutes ces villes qui se libèrent. Ces murs qui tombent, un spectacle épatant, n'est-ce pas ? Quelle blague. Prague sortant de sa torpeur, personne n'y croit. Une ville tellement belle et à la fois tellement triste et résignée, avec sa minuscule poignée d'opposants héroïques, mais totalement isolée. Avec sa brume qui ajoute son voile de mystère, on ne finit pas d'enfiler des lieux communs à son propos. Il suffit de citer Breton, Prague, capitale magique de l'Europe. Ouais, faut pas oublier que ces brumes si romantiques, c'est de la pollution, c'est tout. Prague n'est pas seulement étouffée par la crainte. Si on n'y respire pas, c'est aussi à cause de la suie, de la poussière de lignite, des crasses chimiques qui s'infiltrent partout, qui rongent tous les recoins. Ça n'a rien de pittoresque. Hein. Prague est infectée par la peur et la saleté. C'est une ville détestable. Je ne voudrais y retourner à aucun prix, aucun.
Des manifestations quotidiennes, malgré la répression, ça vous donne pas un peu d'espoir ?
Oui, oui, je regarde le feuilleton comme vous. Et oui, je suis en extase devant ces dizaines de milliers de personnes place Venceslas qui crient « Nous sommes là, le temps est venu !» Quel remarquable courage, hein ? Soudain, quelle détermination ! Après Varsovie, Budapest, Berlin, Prague consent enfin à sortir de sa léthargie. Mais allons, nous savons que c'est un tout petit pays et qu'il n'est pas peuplé de héros. Jan Hus est notre gloire nationale, mais notre comportement est celui du brave soldat Schweik, l'idiot du bataillon. Ces manifestations ne donneront rien. Une fois de plus, il y aura eu l'espoir, l'enthousiasme, la liberté. Ouais, on t'a perçu. Mais il suffira que le bureau politique fronce le sourcil, que quelques blindés soient lâchés dans les rues, et ce sera la fin de la récréation. Comme toujours, ce sera pire qu'avant. Croyez-moi, il ne peut rien se passer de bon à Prague. Non, mais hovno vrutse, hein. Bon, désolé, hein, de vous avoir importuné avec mes petits ressentiments. N'y attachez pas trop d'importance. C'était un moment d'humeur.
Maintenant, que faire de ce carnet ? Au premier coup d'œil, la rédaction est déplaisante. Une écriture appliquée de petits employés. Le choix de l'encre verte semble être la seule fantaisie. Les premières pages sont d'un intérêt très moyen. Venu de Lille, Katz débarque gare du Nord le samedi 1er janvier 1938. C'est la première fois qu'il vient à Paris. Aussitôt, il se rend dans une petite pension de famille près du canal Saint-Martin. Dès le lendemain de son arrivée, il entre en contact avec des camarades responsables. Première discussion politique.
Mardi 4 janvier. Première réunion avec les camarades trotskistes. Blaise, le secrétaire de cellule, a mis notre campagne sur l'Espagne à l'ordre du jour. Des tracts doivent être distribués. Il y a un meeting gymnase Japy où il faudra intervenir.
Rien de bien excitant.
Tu sais ce que c'est ?
Un prospectus pour l'exposition internationale du surréalisme.
Invitation pour le 17 janvier 1938, à 22h, signal d'ouverture par André Breton. Apparition d'êtres-objets, coq attaché, descente de lit en flanc d'hydrophile, les plus belles rues de Paris, taxi pluvieux, ciel de roussette, tenue de soirée exigée, adresse Galerie Beaux-Arts, 140 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris.
Au recto de l'invitation, Katz a recopié la fameuse liste des plus belles rues de Paris, composant la ville idéale des surréalistes. Rue Vivienne, rue de la Vieille Lanterne, passage des Panoramas. Il a souligné le nom d'une rue, la rue de tous les diables. Et a ajouté, juste à côté, en lettres capitales, ce mot, sans doute un nom, Mila.
Mila.
Laurent n'est décidément pas la personne au monde avec laquelle je préfère manger des huîtres. Il arrose ses belons de larges giclées de poivre, ce qui n'a rien d'hérétique. Et fait dans le guiret. N'est-ce qu'une impression ? Ce type pète ostensiblement la santé.
Accident ou assassinat, on ne sait toujours pas. Alex était un homme curieux. Depuis longtemps, il avait attiré l'attention des services.
Lesquels ?
Je peux pas vous dire.
À cause de quoi ?
Ah, comme si c'était si simple. Alex avait une conduite irréprochable, ponctuelle, probe, un dossier impeccable. Et pourtant...
Ne me faites pas languir.
Je ne sais pas grand-chose. Vu ses fonctions essentiellement universitaires, il faisait pas l'objet d'une surveillance particulière. Même à l'étranger. Quelques contrôles ponctuels sur ses fréquentations, de la routine, c'est tout. Très relâché. Les fiches sont là pour le dire.
Pourtant ?
Pourtant. Vous avez raison d'insister. Tenez. Regardez. On a découvert ce document dans la doublure de son portefeuille.
Il était caché ?
Bon, ce serait trop dire. Le portefeuille était très usé. La doublure déchirée autorisait une sorte de poche supplémentaire, éventuellement plus discrète. Rien de plus. Jetez un coup d'œil.
Taper à la machine, c'est une liste de noms de rue. 13 au total. Je manque d'éclater de rire.
Très bizarre, n'est-ce pas ? Allez-y, lisez-les à haute voix.
C'est une blague.
Non, allez-y.
Rue de la transfusion de sang, rue des lèvres, rue Vivienne, rue de tous les diables, rue Faible, rue Nicolas Flamel, rue d'une perle, rue de la Glacière, porte des Lilas, rue Albert Tison, passage des Panoramas, rue Cerise, rue de la Vieille Lanterne.
Vous passez pour bien connaître Paris, vous voyez donc l'astuce. À des rues parfaitement réelles, Alex en a mêlé d'autres, inexistantes. Que ce soit à Paris ou ailleurs, j'ai fait vérifier. Notons qu'il ne donne aucun numéro permettant d'identifier une quelconque adresse. N'est-il pas légitime de penser que les rues inventées sont une sorte de code ? Et aucun code secret n'est inviolable. Ces noms de rues sont autant de friandises données à l'ordinateur qui gère le dossier d'Alex. La machine finira bien par donner un ordre et un sens à cette liste.
Il scrute tellement mes réactions qu'il est plus que tentant de croire à une blague ou un test. Laurent n'est pas un flic ordinaire. Qu'il puisse aimer les canulars n'est pas une hypothèse incongrue. Je suis ébahi. Laurent est magistral. Pas de doute, il ne plaisante pas.
Vous, Victor, au point où nous en sommes, vous et moi, que pensez-vous de cette liste ?
Je la trouve très poétique.
Ne finissez pas.
Je vous assure, je vous dis la vérité.
La rue de tous les diables, qu'est-ce que ça vous évoque ? Répondez sans réfléchir.
J'ai de la vérité ? Association libre ? D'accord. Je vois une rencontre dans un lieu obscur, une caverne, ou une cave, une histoire d'amour, de très grands bouleversements, avec des secrets et de la magie et...
Vous vous foutez de moi.
Oui.
Bonjour. L'Ourset. Paul L'Ourset. Mon assistante a vainement cherché à vous joindre et moi aussi. Je me suis dit que le meilleur moyen était de vous atteindre directement chez vous.
Que puis-je faire pour vous, monsieur ?
Je suis réalisateur à la télévision. Pouvons-nous parler un peu ? Ce ne sera pas très long.
Soit, entrez. Prenez le fauteuil. J'ai pas grand-chose. J'ai été dévalisé.
Oh non, mais ça ne fait rien, ça ira, merci. Juste m'asseoir, parce que avec l'humidité, c'est mes rhumatismes. Je peux fumer.
L'homme ne doit pas être très loin des 80 ans. Il a la mise cossue, pas très fringante. De grandes lourdes poches sous les yeux très bleus. Des fanons sous le menton. Le dos des mains est tout taché de tavelure brune. Il en faut bien plus pour être sympathique.
L'Ourset, vous dites.
Paul L'Ourset.
Réalisateur.
Pendant une époque, j'ai beaucoup donné pour la télévision. Celle des pionniers. Les grandes dramatiques, les reportages, l'âge d'or. Vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune.
Que me voulez-vous ?
J'ai vu le reportage télé de votre arrivée, comme tout le monde. Je suis écœuré par la manière dont mes confrères font du journalisme. J'aimerais faire un sujet sur vous.
Un sujet.
Un document intelligent, fouillé, sur un drame incontestable. Le choc des destins privés avec le fracas du monde.
Rien que ça.
Un 52 minutes avec des allers-retours sur le terrain, des témoins interviewés. Et puis il faudra évoquer Alexandre. Vous vous entendiez bien ?
Aussi bien que possible, vu le contexte.
Ouais. Que pensez-vous des circonstances de sa mort ?
Un accident.
Vous y croyez ?
Faute de mieux. Ce sera la version de la police.
Elle vous convient ?
Elle ne m'indispose pas, puisqu'elle ne contredit pas ce que j'ai vu.
Ah, l'apparence des choses. Vous me parlerez d'Alexandre ?
Je n'ai pas accepté votre proposition.
Mais vous comptez le faire ?
A priori, c'est non.
Si vous me permettez, il y a une donnée dont vous n'avez pas encore pris l'ampleur. Pendant des mois et des mois, vous avez été un personnage public. On a vu votre visage tous les soirs à la télévision. Les flics ont enquêté, aussi les journalistes. Ils ont fait des portraits de vous. Que vous le vouliez ou non, votre image vous a complètement échappé. Maintenant, vous ne ressemblez plus à votre photo. Il faudra, un jour ou l'autre, que vous repreniez l'initiative. Après, seulement après, vous en serez quitte avec cet épisode.
J'ai déjà un toubib, un spécialiste dans sa catégorie. Difficile de voir l'utilité d'un second. Réalisateur de télé.
Bon. J'espère ne pas avoir été maladroit. Donnez-vous un petit temps de réflexion. Si vous permettez, je vous rappellerai dans quelques jours.
Ce vieux monsieur avait dû être un colosse, doublé d'un bel homme. Il n'est plus que rabougri dans des costumes trop grands. Nous nous serrons la main quand le visage de l'Ourset se fige. Je ne comprends pas immédiatement ce qui attire son attention. C'est le carnet de Kat, posé sur le parquet.
Ah, 1938. Une curieuse année pour les gens de mon âge. Une année terrible même. Vous vous y intéressez ?
Je lis quelques souvenirs.
Étonnante occupation, après une si longue captivité. Je peux jeter un coup d'œil ?
Ce sont des écrits d'ordre privé.
Une nouvelle fois, pardonnez ma maladresse. Je ne voulais pas être indiscret. Si nous nous connaissions mieux, vous sauriez que cette année, 1938, a été un tournant dans ma vie. Peut-être en reparlerons-nous un jour. Tenez, voici ma carte. N'hésitez pas à me contacter si vous changez d'avis.
À la capitale, une fois leur café avalé, les jeunes cadres courent retrouver l'industrie grandissante et nous nous retrouvons seuls, Doris et moi.
Toujours les mêmes conneries, hein.
Chut.
Tu veux que je coupe ?
Non, non, au contraire.
Ce journal a la simple et sotte séduction des objets privés, épave dérobée au temps. Autrefois, j'étais encombré d'objets de cette nature, jusqu'à saturation asphyxiante, bricole ramassée au fil des années. Le cambriolage avait imposé la table rase. Le journal de Katz est désormais le seul objet en ma possession, porteur de mémoire. Je le reprends depuis le début, avec préméditation. Lundi 10 janvier 1938. Toute la journée, au travail, j'avais les premiers mots d'un poème qui résonnait dans ma tête depuis le matin. Un poème qui vient, c'est comme les souvenirs d'un rêve. Il faut noter immédiatement, sinon tout s'effiloche. Ce soir, c'est fini, parti, oublié. Je n'ai plus rien à écrire. Les mots s'enfuient.
Je ne leur pardonnerai jamais à tous, aux bourgeois, aux patrons, tous mes poèmes perdus.
Le mardi 11 janvier est un grand jour pour Katz. Ses premières lignes en sont toutes tremblées.
Je n'arrive pas encore à y croire. J'ai osé aborder André Breton. Le plus curieux est que je ne m'attendais pas du tout à le voir.
Pas encore à y croire.
Je sortais d'une réunion.
J'ai osé aborder André Breton.
Il était là avec ses amis.
Le plus curieux est que je ne m'attendais pas du tout à le voir. Je sortais d'une réunion en face de l'église Saint-Germain. Il était là avec ses amis derrière la terrasse vitrée des deux magots. Je me suis assis sur un banc public en face, ne sachant pas trop ce que j'attendais. Lorsqu'ils se sont séparés à 19h, J'ai suivi Breton. J'ai pressé le pape pour me mettre à son niveau. Bon sang, je dois reconnaître que j'avais la gorge sèche.
Monsieur Breton, monsieur Breton. Que puis-je pour vous, monsieur ?
Je me suis présenté. J'avais la crainte de l'importuner et plus encore d'être ridicule. Il m'a écouté, sans impatience.
Alfred Katz.
Je ne sais encore pas comment j'ai fini par avoir le culot de sortir mes poèmes de ma poche.
Je suis honoré de votre confiance, cher monsieur. Je lirai vos poèmes sans délai. Pourrions-nous en parler dès demain ? Je m'occupe d'une galerie d'art à deux pas d'ici. 21 rue de Seine, elle s'appelle Gradiva. Un rendez-vous vers 17h vous conviendrait-il ?
Si cela me convenait.
Oui.
Breton m'a serré la main. Sa poigne est franche. Je l'ai regardé s'éloigner, abasourdi. C'était donc si facile. « 12 janvier 1938. J'avoue qu'au dernier moment, j'ai failli me dérober. Je suis finalement entré, bien convaincu d'aller au-devant de la plus grande humiliation de ma vie. Breton était dans la salle, pas seul. Il conversait avec un petit homme, très brun, très élégant, tout agité. C'était Dali. Il m'offrait peut-être une planche de salut. Puisque Breton était manifestement occupé, il n'y avait qu'à remettre le rendez-vous. »
Un taxi, il me faudra un taxi et de la pluie à l'intérieur.
Ah, cher ami, vous ne pouviez pas mieux tomber.
Un taxi avec de la pluie, c'est une idée magnifique.
Je peux revenir.
Cher Salvador, j'ai le très vif privilège de vous présenter un authentique poète, Alfred Katz. Tel que vous me voyez, je suis encore dans l'émerveillement de la lecture des quelques textes qu'il a bien voulu me confier pour la nuit.
Vous me flattez.
Un taxi, de la pluie, des escargots, quoi de plus génial, n'est-ce pas, monsieur Katz ?
Nous en reparlerons, Salvador, nous en reparlerons.
Mon génie cosmique trouvera le moyen de s'exprimer.
Oui, exactement. Mon cher ami, je ne suis pas l'homme des compliments hâtifs, mais ce que je viens de lire de vous m'assure que vous explorez avec audace un territoire périlleux, sur lequel quelques-uns et moi-même, nous nous aventurons à grand risque depuis de longues années. Il est heureux que nous nous rencontrions enfin. Venez nous aider à préparer notre exposition internationale. Nous avons besoin de 109. Demain, 18h, je vous présenterai les autres membres du groupe.
Merci.
Ce n'était pas une invitation, mais une convocation. Il n'y avait pas à discuter. L'idée ne m'en est pas venue. C'est peu dire que j'étais fou de joie, tout en m'attachant à ne rien laisser paraître.
17 janvier 1938, le fameux soir de l'exposition internationale des surréalistes. Tenue de soirée exigée.
Cette soirée m'enthousiasmait et m'angoissait tout autant. Pas parce qu'on y exposait un de mes poèmes, je n'en étais pas là. Je dois reconnaître que j'étais embarrassé par quelque chose de bien plus mesquin. Il s'agissait après tout d'une soirée mondaine. Ma garde-robe étant des plus réduites, des plus pauvres, je ne pouvais que faire mauvaise figure et j'en étais gêné. Maneret était là, assis sans façon sur le trottoir.
Cette exposition amusante risque de se transformer en vraie corvée. Ah. Une petite gorgée de whisky ?
Ah, du whisky, j'en ai jamais goûté. Ça a un goût de punaise écrasée, non ?
Non, pas du tout. Tu débarques d'où, toi? Alors, ton impression?
J'espère que je serai pas trop ridicule avec ma canadienne.
Mais nous emmerdons tous ces bourgeois. Nous leur chions dans la gueule. Allez, prends donc la dernière gorgée de punaise. Tu vas en avoir besoin pour affronter la vermine conformiste qui abonde ce soir. Regarde-moi tous ces smokings obséquieux, ces robes du soir serviles qui se pressent comme des parasites. Ça me dégoûte. Allez, entrons dans la danse.
C'est dégoûtant, ces escargots, c'est à l'ordre. Moi, je trouve ça grotesque. Ça va être déchiffré comme un cryptogramme.
Touchez-moi encore. Enfin, on devient tactile.
Oh, pardon.
Qu'est-ce que c'est?
Mais
je touche ça.
C'est pas le coup.
Oh, champagne.
Ah oui, oui, champagne.
Une exposition dans la pénombre, enfin, c'est absurde, on n'y voit absolument rien.
Oh, tu aimes le champagne, on dirait. Plus que le whisky.
C'est un scandale.
Le scandale, cher monsieur, ce ne sont pas les objets exposés. C'est la racaille qui les souille de son regard.
Je suis ivre.
Mais ces gens sont merveilleux. C'est tellement nouveau. C'est comme un rêve, n'est-ce pas? Oh, j'en ai le cœur qui bat. Tenez, donnez-moi votre main. Vous le sentez?
Excusez-moi, il faut que je prenne l'air.
Rue du Perle.
Rue de tous les diables. Porte des limons.
Rue
de la vieille lanterne. Ah, mais attention,
vous avez fait
laissé tomber juste votre lampe ici.
Ah oui, merci.
Le mannequin va tarder du chemin.
Prêtez-moi cette lumière, voulez-vous? Il faut que je regarde plus près cette femme.
Je le savais bien. Je le savais bien. Je suis plus belle qu'elle.
Oui, c'est un mannequin.
Et toi, tu as l'air moins bête que toute l'engeance qui est là ce soir. Offre-moi une cigarette, camarade.
Je m'apprêtais à sortir.
Je m'appelle Mila. Je t'accompagne. Moi aussi, j'étouffe.
N'as-tu pas faim, Mila?
Faim? Pas tellement. Je préfère marcher.
Comme tu voudras.
C'était « Nous cheminons entourés de fantômes au front troué » de Jean-François Villard. Adaptation radiophonique, Maya Bocquet. Premier épisode. Avec Antoine Mathieu, François Loriquet, Bruno Pavio, Lenka Luptakova, Christophe Brault, François Château, Martine Chambacher, Chloé Becker, Grégoire Lagrange, Céline Milia, David Gouillet, Robert Attizi, Vincent Némette. Et Pascaline Baumard, Didier Mérigou, Sébastien Faglin, Stéphane Sestac. Et les voix de Pierre-Jean Mali, Christine Armanger, Caroline Binder, Cécile Arnaud, Maya Bocquet. Bruitage, Céline Bernard et Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Alto, Mathieu Beauchat. Violon, Thibaut Maudry. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Nous cheminons entourés de fantômes au front troué de Jean-François Villard est publié aux éditions du Seuil.